Pour ce Radio Barque 28e de la 9e saison, Corinne Sanchez, on revient sur votre travail d'archéologue, de recherche au CNRS, et vous avez évoqué la notion de décider de programmation. Alors, comment ça mûrit ceci? Qu'est-ce qui vous amène à dire, tiens, il va falloir se pencher sur telle zone parce que... Expliquez-nous comment tout cela se concrétise.
Très bien. Alors, personnellement, donc je suis spécialiste du commerce à l'époque romaine. Et de fait, je me suis beaucoup intéressée à la question du port de Narbonne. Et cette question-là, elle est très ancienne. Hein. Dès le 19e siècle, des archéologues s'intéressent déjà au sujet parce que les textes antiques nous disent que Narbonne est un des ports les plus importants du monde romain. Et ça pose question parce qu'aujourd'hui, on ne le voit plus, ce port. Et donc, durant tout le 20e siècle, d'autres archéologues se sont bien sûr intéressés au sujet, et notamment Henri Rouzeau, la rue juste à côté.
Oui, il y a une rue qui porte son nom, près des studios de Grand Sud FM.
Donc, Henri Rouzeau a élaboré une théorie qui était la théorie des avant-ports, en disant bah, Narbonne, bah, ce n'est pas une ouverture maritime, hein, on n'est pas comme à Marseille avec un port directement ouvert sur la mer.
Oui, il n'y avait que la taxe, il n'y avait que le fleuve.
Voilà, il y avait la taxe, mais il y a aussi surtout bah, les étangs, et notamment l'étang de Bages-Sigean. Et donc, il propose la théorie des avant-ports, c'est-à-dire que quand les bateaux arrivent de haute mer, ils rentrent dans les étangs, donc qui est finalement ce système portuaire, mais ces gros bateaux ne peuvent pas remonter jusqu'à Narbonne, parce que déjà ce sont des gros voiliers et qui ne sont pas faits pour naviguer notamment sur le fleuve. De fait, il y a un système de transbordement de ces grands bateaux vers des bateaux plus petits, notamment des barques à fond plat, qui elles vont pouvoir mieux naviguer dans les étangs et surtout remonter le fleuve à Taxe, donc l'ancienne Aude, jusqu'à Narbonne. Et il propose que plusieurs sites qui sont autour des étangs soient ses avant-ports. Donc d'abord, il parle de Sainte-Lucie, parce qu'effectivement, l'île de Sainte-Lucie, c'est à l'entrée des étangs, il y a cette magnifique baie, et il voyait au départ le grand port de Narbonne sur l'île Sainte-Lucie. Après, il a proposé plusieurs autres sites comme avant-ports, et notamment le site de Port-la-Nautique sur lequel on reviendra. Donc nous, on a repris cette question-là. Et on a monté justement ce qu'on appelle un programme de recherche. Donc un programme de recherche, c'est-à-dire c'est déposer un dossier en expliquant ben justement toute cette question-là et pourquoi il faut reprendre cette recherche et mettre les moyens pour faire cette recherche. Et en 2010, justement, ben Georges Fraîche a lancé ben, le projet de Narbovia et a proposé de financer le programme de recherche sur les ports antiques en disant maintenant il faut vraiment retrouver ce port de Narbonne. Alors comme je vous le disais, il y avait eu des recherches précédemment, donc nous on a continué dans cette lancée, à part qu'on a eu un partenariat, et un partenariat très fort entre la région à l'époque, l'État et les villes de Narbonne et de Grisson qui nous ont financés pour pouvoir faire des fouilles importantes. Et c'est ce qui manquait, parce qu'on a commencé à fouiller, notamment dans les marécages, et notamment dans la zone du Castellum en Dirac, ce qui demandait des gros moyens, parce que vous êtes dans des zones humides, où il faut avoir des systèmes de pompage, justement, beaucoup de mécanisation. Et c'est ce qui a permis de mettre au jour bah, ces grandes digues qui canalisaient l'embouchure de l'Aude et qui permettaient là aussi d'appuyer le fonctionnement portuaire parce que là, vous avez des quais qui sont très importants et surtout, bah, ça sécurise bah, l'entrée de l'embouchure et ce transfert des marchandises vers les fameuses allèges, ces bateaux à fond plat qui étaient allés. Donc, c'était des humains qui tiraient les bateaux jusqu'à Narbonne et ses entrepôts.
Oui, donc la théorie, là, s'est révélée juste.
Alors justement, quand on parle de recherche programmée, c'est aussi la recherche sur le temps long. Et nous, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on a hérité des théories d'Henri Rouzeau et on est allé les vérifier. Alors, la seule chose sur laquelle on a été, j'allais dire, pas en désaccord, parce qu'il a eu raison sur beaucoup de choses, c'est pour Sainte-Lucie. Parce que la fameuse baie de Sainte-Lucie n'a pas une profondeur d'eau suffisante pour les grands bateaux. Donc, cet avant-port-là, on l'a exclu, on va dire, du grand système portuaire, parce que sur l'île Sainte-Lucie, vous avez des carrières de pierre qui ont toujours été utilisées. Et vous avez des débarcadères pour justement prendre ces pierres, mais ce sont des bateaux à fond plat là qui vont faire cette évacuation, on va dire, des pierres des carrières.
À propos de Sainte-Lucie, on dit que Saint-Just a utilisé ses carrières de pierre. C'est
oui,
exact,
tout à fait. Oui, tout à fait. Les carrières de Sainte-Lucie sont utilisées depuis l'époque romaine.
Il y a des. Et la cathédrale a utilisé.
Et la cathédrale a utilisé aussi les pierres de l'île Sainte-Lucie. Et aujourd'hui, vous voyez encore les carrières qui sont présentes sur Sainte-Lucie. Mmh. Donc ça a été, je crois, utilisé même pour certaines pierres du canal. Enfin, c'est vraiment, c'est que très récemment, finalement, qu'on a arrêté d'exploiter la carrière de pierre de Sainte-Lucie.
Oui, oui, oui. Alors l'avant-port ou les avant-ports, puisqu'il y en avait probablement plusieurs, par rapport à aujourd'hui, donc il se situe au niveau du Castelloun, le Mandirac.
Alors voilà, vous avez plusieurs avant-ports.
La nautique.
Alors vous avez... aujourd'hui, en cours de fouille, vous avez la Nautique, le Castelloum-Mandirac et l'île Saint-Martin-Agressant. Voilà, ça, ce sont les avant-ports sur lesquels vraiment nous avons focalisé nos recherches, en sachant que tout autour des étangs, il y a bien d'autres sites et qui peuvent aussi révéler des surprises. Yves Sauli, à l'époque, dans la continuité aussi d'Henri Rousseau, etc., avait proposé sur Gruissan aussi le site de Tenten, donc sur lequel on n'a pas encore travaillé, mais il y a du travail pour plusieurs générations
encore.
Donc il ne faut pas s'inquiéter. En tout cas, sur ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est effectivement d'abord l'île Saint-Martin, parce qu'elle est à l'entrée des étangs Narbonnais. Et c'est véritablement le site qui va être le premier site que vont voir les bateaux quand ils vont rentrer dans la lagune. Et justement, on a eu la chance sur l'île Saint-Martin de retrouver les fondations d'un phare. Donc ça montre bien aussi cet aspect.
Oui, donc c'était bien le début de l'avant-port.
C'est vraiment le début. Et justement, ces grands voiliers, quand ils naviguent en Méditerranée, ils savent aller de port en port. Mais quand vous rentrez dans une lagune comme celle de Narbonne, il faut être un local pour savoir où passer pour naviguer dans cette lagune, en sachant que vous connaissez le vent de Narbonnais. Donc il faut mieux que ces bateaux soient remorqués. Et on pense que sur l'île Saint-Martin se trouvaient ce qu'on appelle les pilotes, c'est-à-dire des personnes qui ont des bateaux à rames qui permettent de remorquer les grands bateaux pour justement qu'ils rejoignent l'embouchure où va se faire le transfert des marchandises.
Comme ce que font les remorqueurs aujourd'hui avec les grands bateaux.
Exactement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça sécurise là aussi le déplacement à l'intérieur de la lagune. Et puis sur Saint-Martin, on pense qu'il y a aussi un contrôle, parce qu'à l'époque romaine, il y a une fiscalité qui est très importante. Et toutes les marchandises ont un impôt, ont une taxe. C'est ce qu'on appelle le 40e des Gaules, où l'État prélève sur chaque marchandise 2,5%. Et donc Narbonne, qui est un grand port, avait aussi très certainement ce prélèvement qui pouvait peut-être se faire à l'entrée au niveau de Saint-Martin.
Oui, il y avait une perception. Alors.
Il y avait une perception, très clairement. Et après, donc on arrivait dans les étangs, et au fond de ces étangs, il y avait justement au niveau de l'embouchure, enfin à proximité de l'embouchure, le site de Port-la-Nautique. Et ce site de Port-la-Nautique, il est connu aussi très anciennement. Il y a eu les premières fouilles, même en 1905, par des militaires. Vous savez qu'il y a la butte de tir à la nautique, les militaires fréquentent ce secteur et s'intéressent à l'archéologie. Et il y a toute une étape de fouilles qui est menée à ce moment-là. Et il y a le fameux Hercule, qui est une statue en marbre qui est magnifique, qui est au musée aujourd'hui. Et beaucoup de céramique qu'on appelle la sigillée, qui est produite à Millau. Et dès ce moment-là, les archéologues se disent il y a vraiment beaucoup de cette céramique rouge qui est présente à la nautique dans des quantités qui sont anormales. C'est sans doute un port. Donc avant même de fouiller dans l'eau, j'allais dire, ils comprennent qu'ils sont sur un site portuaire. Et à partir des années 60-70, il y a des fouilles subaquatiques qui se font à Port-la-Nautique et on découvre beaucoup d'amphores, encore beaucoup de cette céramique rouge qu'on appelle la sigillée, et ce qui prouve que Port-la-Nautique a bien été un débarcadère de Narbonne antique. Le problème de Port-la-Nautique, c'est que c'est un débarcadère qui a fonctionné sur 100 ans, entre 30 avant Jésus-Christ et 70 après Jésus-Christ. Ça peut paraître long, mais c'est quand même court
par rapport à l'histoire
du port de Narbonne. Donc ça, c'était une question qui nous a beaucoup, sur laquelle on a beaucoup travaillé avec, des allers-retours avec d'autres collègues, parce que l'archéologie, c'est aussi l'interdisciplinarité. Et on travaille avec les géomorphologues qui, eux, ont une vision aussi plutôt sur le temps long. Et sur les évolutions de l'environnement.
C'est quoi un géomorphologue ?
Alors, ce sont plutôt des gens qui sont issus de la géographie et qui vont travailler sur les paysages et les évolutions aussi de l'environnement. Donc là, on fait par exemple beaucoup de carottage dans le projet pour comprendre comment évoluent les lagunes, pour comprendre aussi les déplacements de l'Aude. Donc ça fait partie de notre projet. Et là, c'est pas nous archéologues qui avons les connaissances pour ça, mais c'est plutôt nos collègues géomorphologues qui vont nous aider. Et là, typiquement pour la nautique, on se posait vraiment beaucoup de questions sur l'abandon de ce port. Et finalement, ce que l'on a pu percevoir à travers les carottages qui ont été faits, c'est qu'il y a eu une hypersédimentation. C'est-à-dire que quand les Romains ont construit des quais pour s'installer à Port-la-Nautique, ils ont condamné le port. Le fait de faire des quais a empêché l'eau de circuler comme elle faisait habituellement, et finalement, ça a piégé les sédiments.
Ce qui explique que ça n'a pas duré très longtemps.
Et voilà, et ça a commencé à combler effectivement, à envaser véritablement le port, et il n'y avait plus la profondeur d'eau nécessaire pour les bateaux. D'où finalement l'aménagement que l'on a découvert au Castellum en Dirac, avec ces digues qui permettent de canaliser l'embouchure et de faire des quais.
Et qui, elles, auraient duré toute la période.
Et elles auraient duré toute la période. C'est-à-dire qu'au départ, l'embouchure n'était pas aménagée. Et quand il y a eu ce problème à Port-la-Nautique, l'embouchure a fait l'objet de très très grands travaux, donc au cours du 1er siècle après Jésus-Christ. Et ces quais qui vont être construits vont durer jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ, donc une durée de vie quand même beaucoup plus longue. Et ce que l'on voit surtout, et ça c'est très intéressant, et on voit combien les ingénieurs à l'époque connaissaient aussi les systèmes, c'est-à-dire que le problème de l'Aude, c'est l'apport de sable. Là aussi, une grosse sédimentation, mais par le sable. Et pour chasser le sable, finalement, la construction de ces digues est utile. C'est-à-dire qu'ils vont construire ces digues à un endroit où le fleuve est assez large, et ils vont pincer le fleuve. Ils vont l'obliger à passer entre ces digues, il y a 50 mètres entre les deux digues, et en pinçant le fleuve, ils accélèrent le courant, ce qui permet de chasser le sable. Donc vous voyez, c'est aussi...
Il y avait une technologie déjà au niveau des Romains sur la gestion des flux de l'eau.
Sur la gestion des flux, et là ça demande une construction extrêmement imposante, parce que cette embouchure, elle est construite dans les étangs.
Oui, on marque une seconde pause, Corinne Sanchez, et on va bien entendu continuer sur cette fouille-là. Alors, la nautique, il y a également ce que vous appelez la villa de l'empereur Auguste, c'est bien ça ?
Alors, c'est pas du tout nous qui l'avons appelée comme ça.
Voilà,
ça a fini par prendre cette forme-là.
On va revenir quand même sur ce que ça signifie après la pause.
Très bien.